Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Binge Audio.
Salut, c'est Thomas Rozek. On n'aura sans doute jamais fini de faire le tour des modes adolescentes, de ce moment charnière d'affirmation de soi ou d'affirmation d'appartenance à un groupe plus grand que soi. S'il alimente régulièrement les conversations, c'est qu'il est perpétuellement là, renouvelé à chaque génération, mais constant, comme si on pouvait tirer un grand fil entre tous les différents mouvements et autres groupes qui ont fédéré la jeunesse. D'ailleurs, pas besoin d'avoir un œil particulièrement aguerri pour voir quelques similitudes, par exemple, entre les New Wave des années 80, les gothiques des années 90 et les emo des années 2000. Des différences aussi, il y en a plein, évidemment. Mais un point commun, au moins celui d'une union forte entre un univers musical, un look identifiable au premier coup d'œil, et un âge où on dessine de plus en plus nettement les contours de sa personnalité de futur adulte. Mais qu'est-ce qu'il en reste, une fois rattrapé par la vie de grandes personnes ? Qu'est-ce qu'on garde de ces moments forts, mais finalement très brefs ? C'est toute la question qui va guider le reportage en trois parties que signe pour nous Anton Stolper, réalisé par Elisa Grenet, un reportage qui s'interroge et se demande « Mais que sont devenus les émos ?» Début de réponse tout de suite avec le premier épisode. Bienvenue dans Programme B.
Vous vous souvenez des émos ? On les voyait un peu partout dans les rues et dans les cours des collèges dans les années 2000. C'était des garçons et des filles qui avaient des longues mèches noires, du maquillage très sombre, les ongles peints en noir et des vêtements noirs aussi, avec parfois des petites pointes de couleurs vives, souvent rouges. Ils écoutaient Tokyo Hotel, ce groupe de rockers adolescents allemands. Ils portaient des chaussures Vans, ils restaient en bande, et dans l'imaginaire collectif, ils étaient tous un peu dépressifs et mal dans leur peau. Pour ma part, je n'en ai jamais connu. Je commençais tout juste le collège à l'époque, et ceux qu'il y avait étaient déjà un peu plus vieux et m'intimidaient avec leurs cheveux, leurs yeux sombres et leur style tellement atypique. Atypique, mais aussi affirmé. Et ça, secrètement, je l'admirais. C'était une époque où j'étais assez mal dans mes baskets. J'avais 13, 14 ans, je savais pas du tout qui j'étais, ma mère m'habillait toujours et on m'avait fait comprendre que ça se voyait, désolé maman. Et que ce n'était pas cool surtout. Mais je n'avais aucune idée des fringues que j'aimais, ni comment combiner les couleurs, en partie parce que je suis daltonien, ce qui n'a pas aidé. Finalement, ça aurait peut-être été plus simple que je sois émo. Il faut juste s'habiller en noir, pas de stress pour savoir si mon t-shirt vert fluo allait avec mon jean bleu. Et si les émos étaient réellement mal dans leur peau, je l'étais aussi un peu. Mais aujourd'hui, je vais mieux. Je me suis trouvé, entre gros guillemets. Je ne stresse plus le matin par rapport à ce que je vais mettre. Bon, je suis toujours daltonien, mais je l'assume maintenant. J'y peux rien. Mais bref, j'ai grandi. Et les émos, alors ? Que sont-ils devenus ? Que font-ils ? Sont-ils toujours habillés de la même manière ? Est-ce qu'il en reste, même ? J'ai voulu essayer de les retrouver. D'une part, pour savoir pourquoi ils étaient émos. Et aussi parce que tous les groupes un peu excentriques et de marge, ceux qui sont différents et dont les gens adorent se moquer, ont une réputation et souffrent de clichés dont je suis persuadé qu'ils ne sont pas tous vrais. Je veux essayer de comprendre ce que ça veut dire être émo. Et si j'aurais vraiment pu ou dû l'être. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux émos, c'est leur look qui pour moi les caractérisait. Donc j'ai voulu me rendre dans un lieu qui, apparemment, était une sorte de rite de passage pour tout émo de l'époque.
Ah, quel temps.
je suis venu à la rue Keller, juste à côté de Bastille, en plein Paris. On est clairement chez les rockers. Il y a un bar de rock au style un peu américain, des disquaires avec des affiches de Led Zeppelin, et au milieu, un magasin qui se démarque. Il s'appelle l'Indien Boutique.
Bonjour. J'ai pu parler avec Nicolas à côté.
D'accord.
Du coup, je me demandais si je pouvais vous parler à vous aussi.
Ouais.
C'est possible ? Est-ce que vous pensez qu'on peut éteindre la musique brièvement ou pas ? Super, merci. Du coup, je fais un podcast pour Binge Audio et on essaye de retrouver et de savoir ce que sont devenus tous les émos des années 2000.
Ah, d'accord.
Et on m'a fait savoir qu'à l'époque, en tout cas, ils s'habillaient pas mal ici.
Oui, c'est vrai. Alors, vous êtes à l'Indien Boutique. C'est une institution, c'est un magasin qui existe depuis 1967, au plus Porte de Clignancourt. Et donc, c'est familial. Et vous avez ma mère, qui a 82 ans, qui travaille encore avec nous. Et donc, voilà.
Myriam,
voilà.
Bonjour, Myriam.
Faut que tu dises bonjour, Myriam.
Juste à côté de Sonia, derrière la caisse, se tient Myriam. Elle a des cheveux blancs, bouclés, une petite chemisette avec un motif à fleurs et des lunettes sur le nez. Elle ressemble vraiment à la mamie classique. Sauf que dans sa main gauche, elle tient un chiffon, qu'elle utilise pour nettoyer un mannequin vêtu d'un harnais de cuir et de chaîne, le genre de pièce qu'on trouverait plus dans un magasin de Pigalle que dans les mains d'une grand-mère.
Vous rêvez sur les Gémeaux ? C'est fini les Gémeaux, c'est une mode.
Justement, c'est pour savoir où ils sont partis.
Les Gémeaux, c'était une mode qui s'est passée il y a une dizaine d'années, en 2008, je crois. 2008, 2010, et ça a duré 2-3 ans. C'était une mode qui a bien marché. Ouais. Ils s'habillaient en pantalon slim noir, très moulant. Et puis, ils avaient cette fameuse mèche qui recouvrait l'œil. Et puis, voilà, c'est comme ça, c'est une mode, et puis ça passe, et puis ça revient, je pense. Mais c'était très sympa comme mode, hein, parce que ça avait un trait surtout sur les ados. Alors, les ados passent leur temps à être émos, et puis ça aidait les parents et tout, et c'est un mouvement qui est doux, qui est pas violent, qui est tranquille, alors c'est juste dans l'habillement, quoi. Dans la mèche et dans le slim et dans le t-shirt, c'est tout. C'était bien comme mode, j'aimais bien. Bon, j'ai connu la mode grunge avec l'époque de Nirvana. Là, les gens se lavaient plus les cheveux. Les gens portaient n'importe quoi, et c'était terrible. Et ils portaient. Bon, maintenant non, la mode comme vous cherchez, c'était pas, non, au contraire, ils s'habillaient, ils coiffaient bien leurs cheveux et tout. Non, non, c'était une mode propre, hein. C'était une mode pas agressive du tout. Non, non, les parents se sont pas tellement inquiétés. Et quand ça s'est décanté, c'est venu comme un ouragan, en fait. Un jour, on est arrivé et ils se sont mis tous à acheter des pantalons moulants, des choses comme ça. Je ne sais pas d'où vient cette mode, en fait. Les émos, je ne sais pas si ça vient d'étranger ou si ça vient d'un côté d'un mouvement punk ou un mouvement artistique ou un mouvement musicien. Je ne sais pas, mais ça a très, très fortement marché, mais pas longtemps.
Elle a raison, Myriam. Le mouvement émo vient à l'origine des États-Unis. Emo, c'est un raccourci pour émotionnel. Et le mouvement est sorti du punk rock dans les années 80. Le punk était un style de rock anti-système et militant. Mais c'était aussi un style très macho, où l'on ne parlait que très peu d'émotions. Mais dans les années 80, certains groupes se sont mis à chanter des paroles un peu plus introspectives. Ils parlaient d'amour, de mal-être, d'émotions. Mais ce n'était que le début. Il y a eu ensuite plusieurs années de maturation et de sous-genres diverses, avant que le style atteigne son summum dans les années 2000, quand les grands labels américains y ont vu un intérêt commercial. Et une fois que les labels américains avaient signé les grands groupes et mis les machines de marketing en route, le succès a été planétaire. Pour résumer grossièrement le mouvement emo, c'est un style de musique aux sonorités rock, mélangé avec des paroles introspectives et émotionnelles, et bien sûr un look unique avec mèche, pantalon slim et eyeliner noir. Mais peut-être qu'il vaudrait mieux en parler avec quelqu'un qui l'a vraiment été.
Yeah, I got
On est dans mon appartement. Junior, 19 mois, court dans tous les sens et n'arrête pas de renverser l'étalage.
Tu veux pleurer ? Eh ben oui. On t'avait dit de ne pas toucher à ça.
On entend quoi, là, Angie ?
Bah, mon fils qui court. qui découvre ton appartement.
Devant moi se tient Angie. Elle n'a rien d'émo. Elle a des cheveux courts, bruns, un pull couleur crème et un jean de couleur claire. Elle porte un tout petit peu de maquillage, mais rien d'exubérant. Mais quand elle secoue la tête, on aperçoit deux petites mèches teintes en violet, cachées sous sa coupe, qui révèlent un passé émo.
Et alors là, quand je te regarde, tu ne portes pas trop de noir ?
Pas du tout. Mais je crois que maintenant que les émos, ils sont très cachés dans la société. Hein. C'est aussi, on a grandi, on a vieilli, donc on cherche un travail, donc on peut plus s'habiller comme on s'habillait à 14 ans, je veux dire. C'est un peu à cause de ça, mais sinon après, quand on est en soirée, on se lâche. Tout de noir vêtu, avec le eyeliner.
Et pour toi, du coup, à l'époque, et aujourd'hui aussi encore, peut-être tu peux comparer les deux.
Ouais.
Ça veut dire quoi être émo ?
Après, au collège, je ne sais pas si j'avais vraiment... si je savais vraiment ce que c'était être émo. Mais pour moi, c'était un style de vie. Enfin, un style de vie. Quand on est au collège, notre style de vie, c'est pas... Si on est encore chez nos parents, etc. Mais c'était les copines, c'était les copains, c'était écouter de la musique, du pop-punk à fond, etc.
Je me permets juste d'interrompre Angie, parce que tout au long de ce podcast, vous entendrez parler de pop-punk, qui est la musique préférée des émos, mais les deux sont interchangeables.
Après, c'était s'habiller, le look. On regardait sur Internet, on regardait les styles qu'il fallait avoir, etc. On regardait les coiffures, on voulait la dernière coiffure émo. Mais je vois que oui, maintenant, c'est différent, parce que même si on n'a pas le style... En fait, c'était plus dans le paraître, quand on était au collège, d'une identité. Et là, c'est notre identité, en fait, elle est... On la voit pas. Enfin, c'est notre identité à nous. Enfin, moi, je sais que ce que j'écoute comme musique, etc., tout le monde me dit « Mais t'écoutes ça ?» Mais non, c'est... Enfin, je sais que je... Mais c'est pour se fondre dans la société qu'on est obligé... Enfin, qu'on est obligé, pas qu'on est obligé, mais qu'on s'habille plus comme dans notre adolescence. Même si, dès qu'il y a une emo night, on se lâche. Ça a commencé quand j'étais en quatrième. J'ai commencé avec Tokyo Hotel. Bon, c'est pas très émo, mais... Mais ça a commencé par là. Après, j'ai vite bifurqué sur Good Charlotte, Blink-182, Sum 41. J'ai découvert plus en plus de groupes. Et j'ai un peu délaissé Tokyo Hotel. Je suis désolée, Tokyo Hotel, mais si vous aussi nous écoutez, désolée. Mais voilà, après, oui, j'étais beaucoup en noir. Après, oui, j'avais des jeans de couleur, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans les jeans. Mais sinon, c'était vraiment l'eyeliner noir et... Et bon, après, j'avais aussi les cheveux colorés. Bah, la mèche, j'avais du violet, du rouge et du vert dans les cheveux. Donc, il y avait beaucoup de photos qui portaient à confusion sur le fait que les émos, c'était des dépressifs, etc. Mais après, il n'y a pas que ça. Enfin, je veux dire, toutes les chansons ne sont pas tristes. Il y a aussi des chansons sur les jeunes, sur les soirées, sur les fêtes. Enfin, je veux dire, s'amuser, etc. Il n'y a pas que le côté dépressif. C'est vrai que quand on ne connaît pas, ça nous fait vite peur. Parce que comme on habille en noir, après, on est aussi associé au gothique, qui est vraiment totalement différent. Le métal aussi, qui est vraiment différent de nous. Mais après, on voit du noir, on voit gothique, on voit dépression. Et voilà, c'est tout, hein. Après, je suis arrivée au lycée, donc à Amiens. C'est là que j'ai un peu... Enfin, il n'y avait pas de démo, en fait. J'ai rencontré d'autres personnes, etc. Et c'est là que j'ai arrêté un peu d'écouter. Mais j'avais... Enfin, c'est pas que j'avais honte, j'avais pas du tout honte. Hein. Je faisais voir à mes copines, je dis, ouais, j'étais comme ça et tout avant, machin. Mais c'est tout. Et c'est après le lycée. Après, j'ai eu mon bac, j'ai fait mon BTS. Et je sais pas pourquoi, j'ai recommencé à écouter les musiques que j'écoutais dans mon adolescence. Et je me suis dit, mais en fait, j'adore. Le style, bah, je l'ai vraiment lâché après le collège.
D'accord.
Ouais, vraiment, après le collège, j'ai arrêté. Je sais que si on s'habille tout en noir ou si on met du noir autour des yeux, etc., je sais que par rapport à la société, ça va pas être mal vu, mais c'est pas... Il faut s'assumer. Je sais que j'ai pas totalement confiance en moi, donc je préfère, entre guillemets, me fondre dans la société que d'assumer de m'habiller en emo. Après, j'assume totalement de m'habiller comme ça, hein. J'aime bien, hein. C'est pas une torture de m'habiller comme je m'habille, mais je sais que comme j'ai pas une totale confiance en moi, je préfère, entre guillemets, me fondre dans la société et m'habiller comme j'en ai envie, hein. J'ai envie de m'habiller comme ça, mais c'est vrai que des fois, de temps en temps, j'aimerais bien m'habiller quand même et me maquiller un peu plus soutenue de noir, mais bon, c'est pas grave. Je pense que quand j'étais ado au collège, je voyais pas du tout les émos de la même manière. Bah, j'étais ado, donc j'avais pas du tout le même esprit. Et là, j'ai redécouvert aussi quand j'ai recommencé à écouter les musiques, quand j'ai recommencé à me pencher sur le sujet, et je me suis dit, mais ouais, en fait, enfin, c'est pas que j'aurais pas dû arrêter. C'est pas dramatique, mais c'est vraiment moi. C'est vraiment moi. Je me suis un peu perdue. Il y en a qui se perdent quand ils deviennent émo, mais moi, je me suis perdue en redevenant normale, on va dire. Voilà. Oui, voilà, on va dire ça. On va dire que là, je suis vraiment, vraiment moi. Et même si j'ai pas l'apparence de ce que j'écoute, de ce que je pense, de ma manière de voir les choses, parce que je te dis à chaque fois que, enfin, même que ce soit mes collègues de travail, quand je leur dis, bah non, j'écoute pas du tout ce genre de musique, ou je vais à un concert d'un tel, ils me disent, mais c'est quoi ça, j'ai jamais entendu, ou enfin voilà. Et quand je leur explique, ou je leur dis, bah je suis présidente d'une association, ah bon quoi? Puis je dis, bah Emonite. Je dis, tu vois les émos là quand t'étais adolescente? Bah voilà, on revient en force.
Pour tout vous dire, Angie n'est pas n'importe quel émo ou ex-émo. Parce que justement, elle avait envie, à 28 ans, de pouvoir parfois s'habiller, se maquiller comme quand elle était adolescente. Et pour le faire, elle a fondé une association qui s'appelle Emo Kid.
C'est pour tous les amoureux du pop-punk des années 90, 2000. Et on se retrouve pour une première partie en concert. Et deuxième partie, un DJ set de 1h30 sur toute la musique qui a bercé notre adolescence. Et on avait même fait pour la première partie, pour la première soirée, petite anecdote, on avait fait un atelier maquillage. Ouais. Et du coup, ceux qui voulaient se maquiller, qui venaient, qui s'étaient pas maquillés, bah, ils pouvaient venir se maquiller. On leur faisait du maquillage noir, comme à l'époque, on va dire. Après, c'est super. Hein. Franchement, quand on voit les vidéos après la soirée, je suis super contente.
Et tu peux décrire ces soirées, ça fait quoi de pouvoir replonger dans l'adolescence comme ça?
Bah, les gens qui s'amusent, la joie, les gens qui reprennent en cœur les refrains de notre adolescence, c'est cool. Et tout âge en plus, c'est vraiment... Franchement, ça fait chaud au cœur parce que je me suis dit... Parce que moi, je veux en fait que enfin, pas que tous les émos de France se rencontrent, mais je veux quand même créer une communauté. Et du coup, je me dis, mais c'est cool en fait, parce que les gens, ils jouent le jeu.
Aujourd'hui, la majorité des émos sont devenus adultes. Ils ont bel et bien laissé cette période dans le passé. Ce n'est qu'un souvenir d'adolescence. D'autres, comme Angie, ont intégré cette identité tout en la dissimulant, à l'exception de ces soirées où elle se lâche. Mais il y en a encore aujourd'hui qui continuent de s'habiller en émo, dans la vie de tous les jours, et certains qui s'y sont même mis récemment. J'ai demandé à Angie si elle ne connaissait pas quelqu'un qui s'habillait en émo au quotidien. Pas juste lors des soirées émo kid. Elle m'a parlé de Guillaume, que je contacte. Et on s'est donné rendez-vous à Villeparisis, en banlieue parisienne. À suivre. I never thought
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.